marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Il faut faire parler les silences de l'histoire.
Les Cévennes, terre de refuge, 1940-1944.
Les antifascistes allemands, les juifs et les républicains espagnols se sont cachés en Cévennes beaucoup. Ils ont été plus ou moins tranquilles. Ah, j'ai eu des Allemands chez moi entre 1943-1944. Un juif authentique et un Allemand qui était antifasciste. Ils ont passé un an très tranquille ici.
Marcel Chaptal, le maire de la commune de notre invité, Patrick Cabanel. Comment, à l'échelle du non-consentement, hiérarchiser les niveaux ? L'hospitalité envers les réfugiés a été une forme de résistance, même si ceux qui la pratiquaient dans les Cévennes ne la voyaient pas nécessairement ainsi. Après la guerre, ils ont dit tout au plus « nous devions le faire, nous l'avons fait, c'est tout ». Comment aurions-nous pu ne pas faire notre devoir ? Quand il n'ajoutait pas, sourire en coin, et si c'était à refaire, on va tout de même pas vous révéler tous nos secrets. Un lieu de clandestinité, non loin de la région, est cependant devenu illustre. C'est le Chambon-sur-Lignon. C'est une cité-refuge. Des pasteurs, qui méritaient leur nom, puisqu'ils s'occupaient à la fois de tous et de chacun, un collège, des écoles, des hôtels, etc., tout un dispositif urbain y a été déployé pour protéger quelques centaines de personnes. Mais le Chambon, c'était un isolat. Alentour, c'était la Haute-Loire catholique et conservatrice qui restait assez passive. Les Cévennes, en revanche, c'est toute une terre faite de vallées inaccessibles et de hameaux dispersés qui devient un refuge, un continuum. Toute une terre, enfin, il ne faut pas en exagérer l'étendue, même si elle est très longue à parcourir. Une dizaine de cantons, en Lozère et dans le Gard, précisément le pays qui fut celui des Camisards après la révocation de l'édit de Nantes. Une terre protestante, devenue républicaine. Le régime de Pétain voulait enlever Marianne des mairies et les prêtres catholiques dans les églises le soutenaient majoritairement. Le choix et la réponse étaient donc simples, c'était non. Et quand les populations rurales des Cévennes disent non, les autorités prennent garde à leur détermination. C'est ainsi que beaucoup d'indésirables, qui bien souvent n'avaient connu que les villes, montèrent jusqu'à la Châtaigneraie et on se poussa pour leur faire partager la soupe.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Patrick Cabanel, déjà maintes fois cité, bonjour.
Bonjour.
Bon, alors historien du protestantisme, très bien. En fait, le fils à Rosette.
Oui.
Alors, il faut que vous expliquiez pourquoi c'est important, dans une enquête orale dans les Cévennes, d'être le fils à Rosette. Il y a une trentaine d'années, tout jeune, sous la conduite de Philippe Jutard, de Jacques Poujol, vous participez à une grande enquête dans le cadre du club Cévenol. Un colloque a lieu à Valrhogue, là où étaient réfugiés les Lévi-Strauss, entre des témoins, des historiens, des logeurs, des anciens réfugiés. Un livre paraît formidable, réédité 5 fois. Et vous recommencez à travailler sur le sujet, à la fois dans les archives, et puis dans vos villages, dans vos vallées, où vous dites « je suis le fils à Rosette ».
Voilà, et aussi le petit-fils d'Albertine, ce qui est peut-être encore plus important, puisque ça permettait d'ouvrir effectivement les maisons, les mémoires. Et il est vrai que je jouais sur les deux tableaux, à la fois l'enfant du pays, bien sûr, et puis l'historien scientifique patenté de l'université. Et c'est une enquête démarrée en 82, collective, hein, j'étais qu'un des enquêteurs parmi bien d'autres, et qui en fait n'a jamais pris fin et qui du reste continue encore.
Et vous allez patenter dans les archives, celles du Gard, celles de la Lozère, parce qu'elles se sont beaucoup ouvertes après les décisions qu'on connaît des gouvernements successifs. On va y trouver, je ne sais pas moi, les fiches de contrôle téléphonique et beaucoup d'autres éléments qui apportent beaucoup à ce volume dont le vaillant éditeur de Nîmes, Alcide, vous avait dit « Tu fais aussi gros que nécessaire ».
Voilà, il n'a pas été déçu.
Le titre ?
Nous devions le faire, nous l'avons fait, c'est tout. C'est l'une des réponses auxquelles nous avons été confrontés par des gens qui estimaient qu'ils n'avaient rien fait d'héroïque, et même, de certaines manières, qu'ils n'avaient même rien fait d'historique. Et ça a été le travail, en quelque sorte, de leur dire, c'est dans l'histoire, c'est une forme de résistance, et ça doit être rapporté.
Dans les Cévennes arrivent les premiers Allemands anti-nazis, par exemple au collet de Dèze dès 39-40. À partir des rafles de juifs étrangers l'été 42 de l'occupation de la zone dite libre, les réfugiés sont de plus en plus nombreux à gagner les hautes vallées Sévenoles, où ils vont se trouver sous une protection collective. Ils pénètrent par les gares. Ça, c'est Marcel Bluval qui raconte son arrivée. Il était jeune adolescent.
Il arriva à Ganges le 21 septembre au train du soir. À Paris, la veille, il ignorait encore tout de ce nom Ganges. En consultant à la volée son livre de géographie de troisième, il y avait appris que Ganges est au nord de Montpellier, à 60 km de la Méditerranée, chef-lieu de canton, 5000 habitants. Quelques personnes étaient descendues avec lui, essentiellement des dames. C'était étrange, comme arrêté, sans soleil. Assurant son sac à dos, il sortit sur la place de la gare. Nouvelle sensation de vide, les cafés étaient ouverts, mais déserts.
Et il va marcher à pied vers le nord, vers les Cévennes qui sont toutes proches. C'est étrange pour un jeune citadin sans soleil. Et oui, disait Claude Lévi-Strauss quand il allait voir ses parents à Valrhogue, c'est drôle, les vallées sont étroites, le soleil franchit très vite les vallées.
Oui, il y a un beau texte, je le cite, de Lévi-Strauss en Triste Tropique sur la moyenne montagne. Et Lévi-Strauss dit que la moyenne montagne lui plaît particulièrement, plus bien sûr que la plaine et que la haute montagne, parce qu'il y a une sorte d'entassement en quelque sorte sédimentaire, et puis c'est une montagne qui est construite, à laquelle il est sensible, et c'est effectivement des montagnes très vite très sombres, puisqu'elles sont particulièrement encaissées, et d'une certaine façon, évidemment, elles sont propices à des formes de clandestinité, de silence.
Alors ça, vous passez à la géographie psychologique, là, après la géographie physique. Et la géographie psychologique, elle est très marquée par le souvenir des camisards dans les Cévennes.
Oui, c'est-à-dire que on a une moyenne montagne comme il y en a partout, un arrière-pays comme il y en a partout, une châtaigneraie comme il y en a dans plusieurs endroits, mais la différence, ce qui fait proprement le génie au sens génétique du terme des Cévennes, c'est effectivement le protestantisme, et puis c'est cette mémoire des persécutions qui étaient très longues, cette mémoire de la rébellion contre l'État, celle des camisards, et on le savait tous, hein, vous avez cité tout à l'heure Philippe Joutard qui avait montré ça dans un livre classique, mais en travaillant sur ce livre, j'ai redécouvert la prégnance, l'insistance chez les acteurs, également chez d'ailleurs les forces de l'ordre, de la mémoire camisarde. Les gens savent beaucoup plus qu'aujourd'hui, et c'est pas du folklore, ils savent qu'ils sont dans le pays des camisards.
Alors vous faites votre enquête dans un pays en déprise, qui est menacé de désertification, dans des cuisines, avec des vieux garçons, des vieilles dames, l'amertume de la solitude rurale, dites-vous, mais à l'époque, la déprise avait certes commencé, mais la Cévenne permettait l'autosubsistance. Il y avait encore une agriculture vivrière riche.
C'est un pays, depuis des siècles d'ailleurs, c'est un pays de cocagne, tout simplement grâce aux châtaigniers. Hein. Les gens le disent, les maquisards, les réfractaires, les juifs le disent, c'était trois repas par jour à la châtaigne. Et effectivement, il n'y a pas encore trop d'exode rural. Donc il y a des pièces vides, il y a des maisons vides, mais il y a suffisamment de gens pour tenir le pays ouvert et pour nourrir des bouches supplémentaires. C'était le meilleur moment.
Acteur essentiel, dites-vous, les jeunes pasteurs, un groupe très homogène de cette zone de moyenne montagne. Alors ce sont des paroisses difficiles d'accès, il faut avoir du jarret, ce sont des hommes à tout faire, mais ce sont aussi des personnes qui sont douées pour la parole et qui ont une autorité incontestée. Alors un groupe extraordinaire, combien de justes entre les nations?
Je dirais que sur une trentaine de pasteurs en poste dans ce périmètre Cévenol, il y a une vingtaine de justes. Hein, et ils ont en commun d'être... ils sont très nombreux. Aujourd'hui, c'est un désert ecclésiastique, comme c'est une forme de désert humain. À l'époque, il y a quasiment un pasteur par commune, ou un peu moins. Ils sont jeunes, ils sont mariés, ils sont jeunes pères de famille. Le fait d'avoir des bébés à la maison les empêche absolument pas de prendre tous les risques. Ils ont des souvenirs d'université. Ils ont été souvent à la fac ensemble, notamment à Genève. Ce sont des disciples du grand théologien de la religion spirituelle, Barthes. Donc, ils forment un réseau, mais je dirais un réseau spontané. C'est des copains de jeunesse. Ils se retrouvent, je dirais, entre familles pastorales. Donc, lorsqu'il faut entrer dans des formes de clandestinité, ils se connaissent déjà, ils sont déjà en place.
Ils ont lu dans les livres et dans la presse protestante très informée ce qu'est l'antisémitisme de Hitler, le péché monstrueux, pour le théologien Karl Barth que vous citiez. Alors, il faudrait parler des femmes de pasteurs. Ah, il y a une femme pasteur aussi, personnage étonnant, là, Elisabeth Schmitt.
Oui, c'est la première femme que l'Église réformée de France a acceptée dans le corps pastoral. Et elle est pasteur à partir de 1936 au fin fond des Cévennes, la vallée française. En 1941, ça c'est important, elle est volontaire pour aller dans le camp d'internement de Gurs, dans la baraque de la Cimade, la jeune Cimade, pour être au service donc des Juifs internés. Elle est une des figures effectivement de ces résistances spirituelles et du côté féminin.
Il faudrait les citer tous, mais celui qui a donné peut-être le plus de témoignages, en voici un au micro de Maurice Lemoine très tardivement, en 1990, c'est Marc Denady, qui était pasteur de Saint-Privat de Valongue, c'est-à-dire dans la Vallée Longue.
J'ai eu à m'occuper de gens qui étaient en difficulté avec les autorités. Sans hésitation, on a dit, ces gens-là, qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut les cacher. Alors on va les cacher. Et tout le monde était d'accord. Et toute la population était d'accord pour cacher ces gens. C'était pas question de les livrer aux Allemands. Parce que on ne croyait pas du tout dans les milieux protestants des Cévennes, dans ce que racontait le gouvernement de Vichy. Dire qu'on était pour Vichy, ça faisait mal. C'était... Maintenant, il y en avait qui étaient quand même des collaborateurs. Mais enfin, c'était très rare. Et moi, je disais souvent, à cette époque, je peux écouter la radio anglaise, mais pour écouter Vichy, je ferme les portes.
Vous avez bien compris, chez Donadi à Saint-Privat, on écoute en Radio Long les portes ouvertes. Et pour écouter Radio Vichy, parce que c'est vraiment honteux, on ferme les portes.
Oui, ça en dit long sur l'homogénéité d'un pays dans lequel les très rares, les malpensants, si on peut dire, c'est-à-dire ceux qui étaient pétainistes, c'est extrêmement rare. C'est le même Donadi qui, lorsqu'on a demandé à l'ensemble du clergé français de faire une prédication pour la Légion des combattants, mise en place par Vichy, a prêché sur le texte « Je suis Légion » et c'est le démon qui parle. Donc,
tout de même, il y a un élément modérateur pour les jeunes pasteurs, c'est le grand chef de l'Église réformée réunifiée, le pasteur Bugner, qui a établi pendant la guerre, et avant même l'occupation de la zone libre, sa capitale à Nîmes. Il est très présent dans les Cévennes, il participe à toutes sortes de réunions, il se balade dans des autocars brinque-ballant, et il ne recommande pas le modèle de l'Église confessante, radicale, telle qu'une partie des protestants allemands l'ont connu.
Non, et ça a été une déception pour certains pasteurs. Marc Bugner a cru possible, pendant, je dirais, 18 mois, de négocier, de parler en quelque sorte d'égal à égal avec le cardinal Gerlier du côté catholique et le maréchal Pétain. Il était un ancien camarade de promotion de l'amiral Darlan aussi, Bugner. Il a découvert ensuite que c'était impossible de tenter de négocier quoi que ce soit et qu'il fallait passer à une autre phase, qui était la phase donc de la clandestinité.
Et à l'Assemblée du désert de septembre 1942, soit quelques semaines après la grande rafle de Paris, il parle très clairement à la radio nationale, parce que la radio nationale diffuse le culte protestant comme la messe catholique. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs l'évêque de Nîmes? Juste après la rafle, il fait une lettre de la plus haute importance.
Là, c'est une suggestion cruelle que vous me demandez de faire. Dans une lettre pastorale, il sait que les vendanges approchent. Nous sommes en septembre 42, et ce qui inquiète l'évêque de Nîmes, c'est la promiscuité entre les jeunes gens et les jeunes filles dans l'école, comme on dit, de vendangeurs. Au même moment où à Toulouse, Saliège lui a dénoncé les rafles de juifs, son collègue, et où Bugner, au musée du désert, donc le lieu de la mémoire huguenote et camisarde, a invité tout ça. Simplement, il n'en a pas fait plus, mais il a invité les protestants présents à regarder les juifs avec la compassion du bon samaritain.
Janvier 43, après donc l'occupation de la zone dite libre, rafle, y compris en Lozère et au collet de Dèze, un lieutenant de gendarmerie fait du zèle, parce que souvent les gendarmes y restent assez lents dans leur réaction, et il arrête le docteur Velspire. C'est un chef de clinique de Paris qui est réfugié au collet de Dèze et très apprécié. Le collet de Dèze, c'est pas loin de Saint-Privat, chez Marc Denady, qui tout de suite est sur le front.
venu me demander des comptes au sujet du docteur Weisspiel, par exemple. Et bien, alors, je leur ai dit, écoutez, le docteur Weisspiel, c'est la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est d'être juif. C'est un excellent médecin, tout le monde l'estime, et j'ai dit au policier qui arrivait de Montpellier, pour nous, Montpellier, c'est loin, je lui ai dit, attention, parce que si vous touchiez au docteur Weisspiel, eh bien ici, vous ne rentreriez pas vivant chez vous. Mais je lui ai dit, oui, vous vous rendez compte de ce que vous faites ? Un bienfaiteur du pays, quelqu'un d'estimable, vous allez le mettre en prison et l'envoyer chez les Allemands et vous savez ce qu'ils en font. Alors, j'ai dit, ça, ici, ça passera pas.
Ça passera pas. No passaran, pourrait-on dire d'ailleurs, parce que la Vallée Longue et le Collet, c'est assez communiste aussi. Hein.
Oui, c'est l'incarnation même du mariage entre le protestantisme classique et le communisme rural fortement planté. Oui.
Mais il faut quand même restituer la conversation que le préfet qui est venu sur place au presbytère, il s'est déplacé depuis Mende, avec le pasteur Donadi, sont les ordres du président Laval, dit le préfet. Et l'autre, le pasteur, il lui dit...
Oui, Donadi lui dit, monsieur le préfet, lorsque vous présenterez devant Dieu, ce n'est pas de Pierre Laval que Dieu vous parlera, c'est de votre conscience.
Alors parlons maintenant de l'étonnement mutuel que les réfugiés vont connaître face à leur logeur, et l'inverse est vrai aussi. Charles Rosen, c'est un grand pianiste américain, accompagnera plus tard des survivants, des réfugiés qui vont visiter la Vignasse. On va entendre Charles Rosen dans un instant, mais Léontine, qui connaît pas du tout la réputation de ce grand pianiste américain, lui demande « Vous êtes protestant ?»« Non, je suis juif. » Ah, et Léontine est contente. Bon, c'est à peu près la même chose, puisque c'est pas catholique.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Une chronique du refuge Cévenol, un admirable livre chez Alcide de Patrick Cabanel. Nous devions le faire, nous l'avons fait, c'est tout. Oui, alors l'étonnement mutuel des uns et des autres. Un musicien, restant avec les musiciens, Hans Hermann Heller arrive à Saint-Jean-du-Gard. Il y a combien de justes à Saint-Jean-du-Gard ?
Les deux pasteurs le sont. Ouais. J'ai pas fait le compte, il y en a d'autres.
L'institutrice. Elle a un piano à queue, ce qui est quand même, je pense, assez rare. Et alors, elle prête son piano à queue à Heller. Et ils ont des drôles de conversations.
Oui, parce que elle sait jouer évidemment aussi du piano, elle joue et Heller lui demande, il est étonné parce qu'elle, d'après lui, elle met ses mains sur les touches du piano comme si elle appartenait à la tribu de Lévi. Et à partir de là, il y a une conversation entre cet homme qui est un musicien réfugié d'Allemagne et puis cette toute jeune professeure de mathématiques, hein, Fernand Travier. Et je dirais que le point commun, évidemment, c'est la musique, c'est aussi le livre, comme disait Brodé. Et c'est la Bible, à l'évidence.
Les Barosines, c'est un peintre letton, prénommé à l'origine Judée, se retrouve au premier étage d'une école dans un hameau, où on leur recommande, parce qu'il y a un abonné de Gringoire, un journal antisémite dans le hameau, d'être discret. Et alors, donc la Bible à lire, pour tuer le temps, il y a un superbe dessin que vous reproduisez dans le livre.
Oui, parce que Barousine donc est peintre, il est là avec son épouse et ils sont dans le logement de fonction de cette école de hameau où l'institutrice n'habite pas. Mais le problème, c'est que il y a classe et pendant que les enfants sont dans la salle de classe en dessous, ils ne peuvent absolument pas bouger parce qu'ils sont cachés à la population. Et comme ils s'ennuient à mourir, lui dessine. Elle, dans certains instants, on la voit qui repasse le linge, une scène un peu machiste, si j'ose dire. Et comme ils s'ennuient à mourir, l'institutrice, qui est la fille d'un pasteur, lui apporte la Bible de son père, en lui disant « ça vous fera une distraction », et il lit intégralement, en chuchotant, la Bible à son épouse, et puis, contrairement à d'autres qui sont convertis au protestantisme, ne se convertit pas, mais au contraire, il redécouvre ses racines juives, prophétiques, et ensuite, ils ont échappé à la Shoah, ils sont partis aux États-Unis, où il a construit une œuvre où il peint à la fois des scènes de l'Holocauste, ou de la Shoah, et des scènes des prophètes d'Israël.
Il ne se convertit pas, vous voulez dire que les pasteurs, certains étant dynamiques, poussent à la conversion, ce qui peut blesser d'ailleurs. Durablement, ceux qui sont accueillis.
Non, il n'y a pas de pression pour ça. Il y a eu un certain nombre de cas rares de conversion, mais qui sont, je dirais, plutôt des formes d'intégration complète à une culture volontaire de la part des réfugiés. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a eu des pressions.
Saint-Germain de Calberte, le pasteur Martin. Alors là, il a des juifs qui ne sont pas du tout pratiquants.
Non, ce sont des juifs communistes.
Et alors, qu'est-ce qu'il leur dit? D'habitude, nous, à table, à cette heure-ci...
Alors là, c'est la fillette que ses parents ont laissée au pasteur, qui est juste d'ailleurs, le pasteur Martin, pour aller faire la résistance à Grenoble. Et le premier soir, le pasteur dit, puisque tu n'es pas chrétienne, nous ne réciterons pas la prière par respect pour ton identité. Voilà, c'est une forme d'intégration et de reconnaissance de la différence.
Alors peut-être faites-vous de l'histoire sainte, mais vous dites, la châtaigneraie, grâce à eux... Parce que certains vont pratiquer le retour à la terre, connaît un été de la Saint-Martin. Oui, il y en a qui ont pratiqué le retour à la terre.
Oui.
Les Fogiels en Vallée Longue encore.
Oui. Là, ce sont aussi des juifs polonais, un couple avec quatre enfants, et eux, malheureusement, ont été arrêtés par la gendarmerie de Florac lors de la rafle d'août 1942. Les deux femmes, la maman et la fillette, sont mortes immédiatement à Auschwitz, et les quatre hommes ont résisté, ont réussi à survivre à la déportation, sont revenus après la guerre, sont allés construire Israël, et ils ont témoigné longtemps après en disant, c'est sans doute nos travaux agricoles, ils avaient fait un retour à la terre pendant 2 ans, ils avaient planté 100 pommiers. Vous imaginez être juif polonais et planter 100 pommiers au printemps 41 ou 42 ou à l'automne. Ils disent qu'ils ont survécu grâce à la forme physique que le travail agricole leur avait donné.
Mais ils se disaient qu'en plantant des pommiers, ben ça serait d'autres d'eux qu'eux qui ramasseraient les fruits. Mais il se trouve que les néo-ruraux qui sont là maintenant sur ce domaine, ils ont nommé le pré Fogiel.
Voilà, ils l'ont nommé le pré Fogiel et... Oui, oui.
Dernière étape, l'État milicien va finir par s'installer à Vichy, et auparavant, il aura fallu basculer dans la semi-clandestinité, dans la clandestinité, aussi bien pour les réfugiés que pour les réfractaires du STO qui vont créer des maquis. Alors voici, dans une émission de Pierre Dumayet, il y a toujours une émission de Pierre Dumayet à peu près tous les jours dans la marge de l'histoire, je ne sais pas pourquoi, un hommage sans doute. Voici le témoignage de Monsieur Cabanne.
Ma grand-mère Cabanne, par exemple, qui me disait toujours, toutes les fois que je le méritais, elle me disait en patois, « C'est méchant comme le dragon de Villars ». Vous voyez, ce qui veut dire « tu es méchant comme les dragons de Villars ». Alors donc, ma grand-mère avait certainement entendu dire ça à sa grand-mère à elle. Vous voyez, c'est comme ça que j'ai connu l'histoire des camisards.
Tu vois, je vois un petit timbre là, 32 ans après, ancien du maquis des Cévennes. Là.
Oui.
Vous étiez maquisard, ça vous a rappelé le temps des camisards?
Oui, j'ai l'impression d'avoir revécu à peu près ce que mes aïeux ont vécu. Hein. Le paysan Cévenol qui nous recevait à sa table avec une grande facilité. Moi, par exemple, et je vois toujours les braves gens dire « Tiens, vous arrivez, se pousser, vous voyez ?» Ils vont dire « Asseyez-vous, monsieur Cabanne, et mangez la soupe de châtaigne avec vous. » Et ça, je suis persuadé que les camisards ont exactement fait la même chose.
Poussez-vous et vous allez manger la soupe avec nous. Oui, cependant, alors ça, c'est une représentation qu'ont les historiens. Ont-ils raison, ont-ils tort? Quand il y a des maquisards qui s'établissent les Juifs ou les réfugiés qui sont là, très discrètement dissimulés, le danger ne va-t-il pas grandir pour eux, puisque les maquisards sont une cible?
Oui. En même temps, ils peuvent aussi détourner l'attention. Les troupes d'autorité allemande s'intéressaient évidemment de très près aux maquisards, beaucoup moins aux juifs. On a longtemps cru qu'il y avait une sorte d'opposition entre les terres de maquis et les terres de refuge. Et que là où il y avait des juifs cachés, il n'y avait pas de maquis. Or, c'est totalement faux. Et les Cévennes sont l'exemple même. Les Cévennes, c'est une très haute densité de refuges juifs et c'est une très haute densité de maquis. Et les pasteurs dont on parlait, Donadi et d'autres pasteurs, je pense au pasteur Olives de la vallée de Valrogue, non seulement c'était les animateurs du refuge juif, mais c'était aussi les animateurs du refuge des réfractaires et ensuite des maquisards.
Vous parlez de superposition.
Oui, c'est-à-dire que ils menaient les choses en même temps. Certains pasteurs étaient même des fondateurs et des leaders de maquis en armes. Il y a même l'exemple de deux ou trois pasteurs qui, à la fin de la période, tellement c'était dangereux, se promenaient armés. Et donc, c'est l'idée que, y compris dans les mêmes hameaux, les mêmes familles, on peut à la fois accueillir des juifs qui cherchent à se cacher, des hommes qui cherchent à se battre. Il y a aussi des juifs du refuge qui sont passés au maquis. Certains sont morts, certains juifs sont morts, les armes à la main, pas comme victimes de la Shoah, mais comme combattants de l'antifascisme. Et à leur côté, il y avait des républicains espagnols, des communistes, des huguenots, des antinazis allemands et autrichiens, juifs ou pas. Et finalement, les Cévennes, c'est pas le seul exemple, on aurait la même chose dans l'Ardèche ou dans la Drôme. C'est, je dirais, la montagne de toutes les résistances, la civile, la militaire, la spirituelle, la politique.
Oui, bon, alors ça c'est votre description d'un môle, mais enfin on a quand même du mal à concevoir que cette protection collective ne connaissait pas des brèches, des fissures. Que faisait donc le receveur des postes? Que faisait donc le gendarme? Que faisait donc le curé? Que faisait donc la bonne de Gringoire?
Oui, alors, dans les Cévennes les plus rurales, il y a vraiment une homogénéité de la population. Dès qu'on trouve dans des petites villes, sous-préfecture de Vigan, sous-préfecture de Florac, il y a des représentants de l'État, il y a de toute façon des gendarmes dans chaque chef-lieu de canton, et les gendarmes, on en a parlé tout à l'heure, les gendarmes ne font pas toujours forcément du zèle, mais ils sont pas non plus, je dirais, indifférents à la chose, et lorsque Vichy leur demandait de chercher des juifs, ils les ont cherchés, ils n'ont pas toujours trouvé, mais il y a eu par exemple en février 43 une rafle sévère à Florac, avec 13 hommes arrêtés, tous n'ont pas été déportés. Donc c'est pas l'histoire, je dirais, d'une terre qui aurait été totalement protégée de Vichy, de la Shoah, mais c'est l'histoire d'une terre où la dimension de survie est plus forte qu'ailleurs.
Et alors les chiffres, on n'a pas posé la question des chiffres au début de votre livre, donc chez Alcide, nous devions le faire, nous l'avons fait, c'est tout, il y a une carte avec le nombre de justes par village, mais au total, combien de personnes ont été sauvées au Chambon? C'est quelques centaines.
Alors oui, sur
à
cette
deux heures et demie de route.
Et voilà, il y a beaucoup de chiffres qui ont circulé. On pense que c'est environ 1 000 000 au Chambon, et c'est à peu près aussi le même chiffre pour l'ensemble des Cévennes, c'est-à-dire département de la Lozère, département du Gard, la partie Cévenole. C'est sans doute 1 000 000 de Juifs, c'est pas plus. J'ai fait le calcul, je dirais à la dizaine près. C'est un calcul juste pour la partie lozérienne des Cévennes. On est à 530 réfugiés. Alors c'est à la fois dérisoire au regard des 320 000 Juifs qui se trouvaient en France en 1940. C'est à la fois dérisoire. Et en même temps, c'est un vrai succès, d'autant que sur ces 500 et quelques juifs dans la partie Cévenole de la Lozère, le pourcentage de morts est extrêmement minoritaire. Je crois que c'est 6%, alors qu'en France, c'est beaucoup plus fort, hein, c'est 25% le chiffre national. Donc là, il y a la preuve de l'efficacité de ce qu'on appelle une terre de refuge.
Mais ça fait réfléchir sur un rapport auquel on pense pas souvent. Pour sauver une personne, il faut beaucoup d'âmes fortes.
Oui, parfois, pour les justes, on peut penser que c'est un juste qui sauve une personne, mais très souvent, pour sauver un juif ou une famille juive, c'est 3, c'est 10, ça peut être 40 personnes, ça peut être tout un village ou toute une vallée pour sauver un couple ou une famille.
Merci à vous, Patrick Cabanel, vos chroniques du refuge Cévenole, donc aux éditions Alcide, 6 bien sûr, à Nîmes, capitale du protestantisme. L'émission a été réalisée par Audrey Ripouille, préparée par Franck Olivard, avec à la technique Philippe Duclos.